Bienvenue dans Crossroads numéro 77, l'émission qui s'intéresse à toutes les musiques et qui donne la parole à celles et ceux qui les font vivre et prospérer. Émission déclinée en deux volets, placée sous le signe du dialogue, de l'ouverture, de la fusion et du métissage. Dialogue entre Orient et Occident, entre Maghreb et Europe, entre musiques modales intemporelles et sons actuels, entre instruments traditionnels et technologies, au-delà des frontières stylistiques, des méconnaissances et des préjugés. Dialogues qui prennent la forme de complicité humaine, transcendant les messages et les esthétiques, inventant de nouveaux langages possibles. Deux reportages pour ce premier opus, Pierce Fassini et Yuma, rencontrés au cours de la même soirée à la Cité de la Musique de Romans, le 4 novembre dernier. Pierce Fassini, artiste d'origine italo-anglaise actuellement basé dans les Cévennes, et Yuma, duo guitare-voix originaire de Tunisie. Je vous propose d'ouvrir sans plus tarder ce Crossroads en musique avec Orange Blossom, version 2014. Carlos Robles, leader fondateur du groupe, officiant aux percussions et machines, mexicain d'origine, est toujours investi dans le projet et a rencontré au Caire, il y a quelque temps, la chanteuse égyptienne Hind Ahmed Hassan, qui poursuit l'aventure en remplaçant l'inoubliable Leila et assure donc les vocals dans le nouvel album intitulé « Under the Shade of Violets ». Titre choisi, Marie. Pierce Fassini était en concert le 4 novembre dernier à Romans, dans le cadre de sa tournée correspondante à la sortie de son 6e album I Dreamed an Island, disque qui met en lumière, d'une façon contemporaine, la singulière histoire de la Sicile, qui fut à la fois arabe et normande, où la cohabitation entre islam, chrétienté et judaïsme fut un temps possible, un peu à l'image de l'Andalousie. Pierce Fassini, artiste multiforme s'il en est, chanteur, guitariste, compositeur, poète, peintre. Il chante principalement en anglais, mais également en français et en italien, plus précisément en salentino, le dialecte des Pouilles. Pour ce projet, l'artiste est accompagné de fort belle manière par Simone Pratico à la batterie et par Malik Zind Aloud aux sonorités de basse. Interview réalisée dans un premier temps avec Pierce, rejoint par la suite par ses deux musiciens complices, tant en loge que sur scène. De suite, premier extrait de son dernier album, To Be Sky.
Found an ocean, but it dried away. Found a rock, but it crumbled to dust. Found a valley, it was cold as ice. Found a mountain, couldn't reach the top. To be lost is to be found. To be sky is ever to go down to the ground and earth. But it burned to ash. Found a lover, lover gave me love. Found a dream, left me for dead. Found a heaven, wouldn't let me in. To be lost is to be found. To be sky is ever to go down. To the ground and earth above. To the sky is ever to rise up from the ground. From the ground. From the ground. From the ground.
Bonjour Pierce Fassini.
Bonjour.
Est-ce qu'on pourrait parler de l'actualité brûlante, j'allais dire? C'est la sortie de l'album, hein.
Absolument.
C'est récent. Ouais. I Dreamed an Island.
I Dreamed an Island, ouais, qui est sorti il y a 10 jours, je crois. Exactement.
Alors c'est quoi le propos du disque? Est-ce que c'est une invitation au voyage, par exemple?
En fait, c'est c'est toujours assez difficile de réduire dans quelques phrases, mais c'est un bon exercice, donc je vais essayer. En fait, je suis très influencé depuis des années de beaucoup de musiques différentes. Et donc déjà, de la part de mes influences, ça crée déjà un voyage, c'est-à-dire en partant du folk anglo-américain, en allant jusqu'aux musiques méditerranéennes et au Maghreb et à la musique. Fait depuis un moment une sorte de style à partir de ces voyages-là. Je fais des voyages à partir de chansons. Et là, sur ce nouvel album qui s'appelle I Dreamed an Island, j'ai voulu trouver un concept pour cadrer encore plus l'écriture des chansons. Le rêve, donc en français, ça veut dire j'ai rêvé une île. L'île dont j'ai rêvé est une île utopique où, comme un songe, et sur cette île, qui est une île méditerranéenne, inspirée de la Sicile, c'est un endroit où il y a une cohabitation et une tolérance entre les peuples et les religions. Et avec cette cohabitation, avec ce mélange et ce métissage, on trouve une sorte de floraison de la richesse culturelle. Ce songe-là, il est basé sur un moment d'histoire qui était la Sicile du XIIe siècle. Mais à partir de cette inspiration-là, c'est-à-dire de cette version réelle où il y avait effectivement pendant à peu près 70 ans une vraie cohabitation entre les trois religions monothéistes et des peuples d'un peu partout, j'ai créé une sorte d'utopie par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à une rhétorique qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, qui encourage la peur de l'autre, qui encourage la sorte de démonisation des religions, enfin de l'autre et de la religion de l'autre. Et je voudrais, dans cet album, rappeler que la richesse culturelle de l'Europe a toujours été grâce au métissage. Et si nous tournons notre dos à la mixité, à la tolérance de l'autre, ben, il y a non seulement une violence qui va s'entraîner, qui est déjà le cas, comme l'histoire nous a montré, le long des siècles, c'est le cas aussi, mais nous appauvrissons, quoi. Voilà, donc c'était un peu long comme réponse, mais c'est un concept assez précis, assez spécifique, et que j'ai pas toujours la capacité de réduire à trois phrases. Je suis pas assez homme politique, en fait.
Et on pense évidemment aussi à l'Andalousie,
absolument, ouais.
Où là, effectivement, c'est un peu la ouais. même histoire. Hein.
C'est un peu la même histoire. Disons que ce qui est intéressant dans la version sicilienne, c'est qu'on pourrait dire que dans la Sicile arabo-normande du XIIe siècle, ça reste quand même un royaume qui est chrétien, c'est-à-dire les rois sont des chrétiens, mais c'est un royaume chrétien où il y a une tolérance vers les religions de judaïsme et de l'islam surtout. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire lorsque la version al-Andalus, la version arabo-andalus, c'est une dynastie islamique où il y a une tolérance vers le judaïsme et le christianisme. Donc là, en fait, j'ai voulu choisir la version sicilienne comme inspiration parce que c'est plus proche à mes racines. Et je trouve aussi que c'est aussi peut-être une histoire qu'on a moins entendue. Après, j'essaie de souligner le fait que c'est pas du tout un album historique. Et je me suis inspiré de la Sicile du XIIe siècle comme ferait quelqu'un qui écrivait un roman. C'est-à-dire, ça reste, c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect rêve. Et puis, au final, paradoxalement, je me suis servi de cette inspiration du XIIe siècle pour, à la fin, écrire quelque chose que je pense est vraiment très profondément 21e siècle. C'est-à-dire, c'est très contemporain. Enfin, je veux pas me vanter, mais dans le style, en parlons pas de la qualité, c'est pas à moi de le dire, mais en termes de style, c'est quelque chose qui est vraiment de nos jours, c'est-à-dire les mélanges et le mélange des influences, le mélange des langues est assez nouveau comme son, c'est-à-dire c'est intéressant, je trouvais, qu'on entende des motifs et des modes qui rappellent les musiques orientales et les modes arabes, de mélanger de l'anglais avec ça. Qu'on entend, par exemple, un musicien comme un Tunisien, comme Jasser Hajjoussef, jouer dans des modes des Makan, et avec une guitare baroque, par exemple, derrière, mélanger à ça une guitare électrique, le tout chanté en anglais, avec des fragments d'autres langues aussi. Mais dans le mélange, que j'ai essayé de trouver quelque chose qui est propre à nos jours, parce que je ne suis, en plus je suis autodidacte, donc ma façon d'approcher la musique est, je dirais presque plus, je suis peintre à la base et j'ai tendance presque à approcher un album de plus en plus comme presque comme une peinture ou une série de peintures ou comme un film presque, et voilà.
Et peut-on parler de concept album?
Complètement, ouais, ah, ouais. Oui, c'est absolument un concept album, hein. C'est, mais dans le sens, moi je trouve ça intéressant en fait, c'est-à-dire que je trouve qu'il est important de souligner de plus en plus l'importance du concept d'un album, sans parler d'un concept album, c'est-à-dire l'album en soi est déjà un concept. Il a toujours été, les beaux albums sont toujours, réunissent toujours autour d'une idée, autour d'un son, autour d'arrangements, de couleurs particulières qui rendent la collection de chansons comme un concept, c'est-à-dire quelque chose uni, qui est propre à ce moment-là, entre 35 et 45 minutes par exemple. Et l'idée du concept album, et c'est de pousser ça encore plus loin et de faire en sorte que souvent il y a une narration particulière, les chansons appartiennent à un temps particulier ou à une histoire ou à des personnages. Mais je trouve que c'est assez important et intéressant de souligner le concept de l'album aujourd'hui parce qu'on vit de plus en plus dans une sorte de consommation superficielle de la musique. On écoute sur Spotify, Deezer, sur YouTube et on n'écoute même pas les chansons jusqu'à la fin, on zappe d'une chanson et d'une autre. Donc l'idée, moi je continue à faire des albums pour des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui sont fans d'albums. Moi je suis fan d'albums, quand j'écoute la musique, j'adore écouter l'ensemble d'un album. Donc je le fais pour moi comme ça et pour les autres qui partagent cette vision des choses. Mais après, j'ai rien contre aussi les gens qui peuvent apprécier morceau par morceau aussi. C'est une autre façon d'écouter, de consommer la musique. Mais oui, c'est pour répondre à la question, j'aime bien l'idée d'un concept autour d'un album, comme ferait un écrivain ou un réalisateur de film.
Ce disque est sorti en format CD, vinyle également?
Absolument, oui.
J'ai posé la question par rapport au visuel. Hein.
Oui, absolument. En fait, tous mes albums sont sortis en vinyle. Et puis depuis 2013, où j'ai monté ma propre maison de disques, ben je pourrais dire que je mets une grande importance à la fabrication de vinyle et de faire un très bel objet. On fait ce qu'on appelle un gatefold vinyl. Gatefold, c'est quand ça s'ouvre comme une pochette. Et on met les paroles, on met une carte de téléchargement et on met aussi un CD dans le vinyle. Et le tout est sur un carton, un très beau carton. Les photos sont vraiment belles dessus. Je suis très content de pouvoir... moi aussi, je suis fan de vinyle. Donc, encore une fois, ce qui est important pour moi, je le partage avec les gens qui ont la même sensibilité. C'est vrai que le vinyle, autant dans les visuels que dans le son et l'objet, est quelque chose que je trouve super, qu'il y a une renaissance autour de ça, en fait.
Ce disque, est-ce qu'on peut considérer qu'il est en prolongement des autres disques? Je veux dire, il y a un fil conducteur comme ça, parce que...
Bien sûr.
On a produit déjà beaucoup, hein.
Oui, ouais, ouais, bah oui, je suis là depuis un moment. Je commence à être habitué, ouais. En fait, c'est une danse de funambule, ce travail-là, quand on fait beaucoup d'albums, parce qu'il faut garder une continuité dans un certain style d'écriture qui est propre à soi-même, parce qu'on peut écrire que à partir de ce qu'on est. Mm-hmm. Le moment où je décide d'écrire dans l'idée que je peux écrire d'un autre point de vue ou dans un autre style qui n'est pas le mien, ça ne marchera jamais. Donc il faut, le travail consiste à déjà comprendre qui on est, donc c'est un travail intérieur, et à partir de ce travail-là, album par album, il faut essayer de trouver un concept à chaque fois qui fait que on fait attention de ne pas se répéter, tout en gardant une certaine continuité dans le style. Et ça, c'est pour ça que je dis, il y a une certaine danse, c'est un peu sur le fil, c'est pas toujours évident, mais je trouve que c'est important parce que il y a tellement de musique aujourd'hui que je veux surtout pas, comment dire, rajouter à la masse sonore de choses sans que je sente qu'il y a quelque chose de précieux, quoi. Enfin, je crois que c'est précieux. Et je pense que ça, c'est très important quand un artiste fait de la musique, quand quelqu'un écrit ou chante. Il faut qu'il y ait cette volonté, cette sensation que c'est authentique et que c'est valable. Et que si ce n'est pas le cas, je me suis toujours dit, le jour où je me sens que j'ai pas cette sensation de pouvoir rajouter, de dire quelque chose de profond, d'inhabituel, de nouveau, pour moi et pour les autres, je pense que c'est pas la peine de continuer de faire des albums. Donc, du moment que la source coule et que je peux mettre mon petit bol à côté de la source et que cette eau précieuse tombe goutte par goutte, bah, je continue à faire des albums. Mais à chaque album, je sais jamais s'il y a un autre derrière. C'est la muse qui décide.
Smoke, dust and debris on the air we choked. Vengeance comes with a savage fist, cold as metal in the morning mist. Drone by day, killer by day, drone by night, put the bones away. Drone by night, killer by day, drone by night, put the bones away.
Live sont toujours les mêmes. Vous êtes en trio.
Là, on est en trio. Donc, Simone Pratico, qui est avec qui je joue depuis 2008, qui est d'une importance primordiale sur le projet. Donc, Simone, qui avec qui, quand j'écrivais les chansons, je partageais en premier toujours avec Simone les chansons. Et cette couleur, tout ce que moi j'ai fait sur l'album, c'est de l'encourager à faire en sorte que je lui ai poussé à être assez excentrique et très inventif dans sa façon de jouer la batterie et de trouver des couleurs entre batterie et percussion, mais tout le temps avec son toucher de batteur. On a aussi écrit un morceau ensemble qui s'appelle The Many Women. Donc peut-être Simone peut dire quelques mots là.
Un petit mot par rapport, entre autres, à cette collaboration qui s'inscrit année après année, hein, déjà, et puis l'importance du live aussi. On a beaucoup parlé de l'album, là. Mais là, pour le coup, le live, c'est encore un autre univers. Hein.
C'est un autre univers, mais c'est très lié à l'album. Je pense que cet album, il est vraiment... Il est né aussi après qu'on a beaucoup joué ensemble, et sa façon de jouer, c'est vraiment... Ça inspire aussi à ce que disait Pierce. Avoir des idées ou des sons qui ne sont pas vraiment... Je ne sais pas comment ça se dit...
Habituel.
Habituels, ouais. Voilà. exactement, mais c'est...
C'est une façon de se réinventer. Enfin...
Oui, mais c'est ces chansons qui amènent à ça, en fait. Voilà.
Et en jouant beaucoup en duo le long des années, on a trouvé un certain style, en fait. Parce qu'il y a une certaine dynamique nécessaire quand il n'y a pas de bassiste. Oui. Et quand un batteur joue avec une autre personne et que c'est que la guitare, et quand un guitariste joue avec une autre personne et c'est un batteur, c'est très particulier la dynamique et le mélange. Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé parce qu'on a fait des centaines de concerts. Et là, c'est super. Moi, c'est vrai que étant un chanteur et aussi la guitare étant un instrument non seulement rythmique mais surtout harmonique, eh bien, je trouvais ça aussi super de pouvoir sur ce nouvelle tournée de pouvoir incorporer un troisième membre qui amènerait comme nous une passion pour le rythme, parce qu'on mais avant tout qui pourrait rajouter et ramener une deuxième voix harmonique et aussi amener cette couleur-là que moi je ne peux pas faire à la guitare. Enfin, j'essaye un petit peu en mettant des mini frettes sur ma guitare pour faire les quarts de ton, mais en fait c'était très important sur cet album qu'il y ait une troisième personne. Moi je crois vraiment que la vie nous donne des cadeaux quand on lui fait confiance. Et un jour on avait... Enfin, c'est Vincent Segal, le violoncelliste, qui nous a présenté Malik Ziad, qui est avec nous aussi maintenant. Malik m'a été présenté par Vincent et on l'a invité à chanter sur un morceau sur l'album. Et quand on jouait à Marseille, Malik habite à Marseille, et on a joué à Marseille ensemble. On l'a invité à nous rejoindre dans le duo et il est arrivé avec la mandole et tout de suite je savais qu'on allait jouer ensemble. J'ai cette sensation c'est un feeling très important. Quand on joue ensemble, on partage quelque chose et je suis vraiment vraiment ravi que Malik s'est joint à nous. Et c'est pas toujours évident pour lui parce qu'il voit qu'il y a déjà un duo qui est vachement soudé. Ouais. Mais en tout cas, on est vraiment content et je suis vraiment assez excité par les possibilités de ce qu'on peut faire à trois, quoi. Et Malik joue donc la mandole et le gambri. Et le karkabou, les percussions gnawa, il chante aussi. Le seul truc qui manque, c'est Simonet qui doit se mettre au chant. Ouais, voilà. Ça va arriver.
Ça va pas tarder, non? Ça va pas tarder, je sais pas, mais c'est possible, ça va arriver.
Una ballada romana, dai.
En italien, oui, on est pour l'italien. En romain, on dit aller romain.
Et vous avez travaillé avec Vincent Segal, donc par ailleurs.
J'ai collaboré avec Vincent Segal avec une formation. En Bretagne et ouais. Du coup pendant la résidence on a fait connaissance et on a pas mal de fait des bœufs entre nous comme ça, comme Vincent c'est un amoureux de la musique, essentiellement la musique africaine et tout, et on s'est vite retrouvé dans cet univers, donc on a c'est vraiment un personnage très très intéressant et très content aussi d'avoir grâce à lui il m'a fait découvrir l'univers de Pierce et c'est vraiment un univers où je me reconnais. Je m'y intègre délicatement parce que c'est très subtil comme musique, très riche et en même temps très proche parce que je reconnais ces sonorités qui viennent de ici. Moi, déjà issu de musique traditionnelle, j'apprends dans cette musique à essayer de réadapter des jeux de gambri d'une autre façon, autre que la façon dont j'ai appris. Et c'est vachement intéressant. Et pour ça, j'ai envie de dire merci.
Un petit mot sur le label, quand même.
Bah, le label, c'est...
Alors, il s'appelle comment, déjà ?
Beating Drum.
Voilà, Beating Drum.
Beating Drum, c'est une idée assez folle, parce qu'aujourd'hui, de monter un label au moment où les gens arrêtent d'acheter des disques, c'est quand même un sacré challenge. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas trop le choix, en fait. J'avais trop envie d'expérimenter avec les objets, d'être très créatif. On fait des livres disques, on fait de l'artwork, on fait du vinyle, on fait plein de choses que j'aurais jamais pu faire si j'étais signé dans un contrat d'artiste classique, comme j'ai été dans le passé. Et non seulement ça, on sort aussi des projets sur ce label que je pense aurait pas forcément si facilement une maison, et donc on est assez fiers aussi de pouvoir sortir des choses qui auraient peut-être une maison avec difficulté, et notamment un projet qui s'appelle Yali Yali, Terre de mon poème, sur lequel j'ai fait toutes les musiques et Simone a fait toutes les batteries. Et une chanteuse qui s'appelle Amy Hanak qui chante sur ce projet-là. Et en fait, c'est un projet qui a été hyper bien reçu. Il a été médiatiquement très bien reçu partout. Et donc, je suis vraiment content parce que c'est pas seulement un label pour ma musique, mais aussi un label pour présenter des nouveaux projets et aussi des projets qui sont des belles histoires aussi.
Il y a Milky Me. Hein.
Milky Me, c'était le nom de scène de Yali Yali.
Voilà, c'est voilà. Ça. D'accord.
Maintenant, c'est
oui,
Yali
c'était
Yali.
Son nom de scène, en fait.
Voilà, en fait, on a collaboré, c'est-à-dire j'ai écrit les musiques et elle a écrit les textes essentiellement. Et on l'a enregistré, moi et Simone, les musiques. Et après, elle... Mais c'est elle qui est venue me voir avec cette volonté de collaborer et puis de créer une musique autour de son histoire, qui est une histoire très importante française, c'est-à-dire qui est l'histoire de quelqu'un qui est français aujourd'hui, peut aussi célébrer et incorporer ses origines d'ailleurs. Et c'est aussi ça d'être français aujourd'hui. Et je trouve, du coup, c'est un projet qui a une certaine résonance aujourd'hui. Là, elle a voulu chanter dans la langue de sa maman, qui est le kabyle, qui est une langue qu'elle ne maîtrise pas. Mais j'ai trouvé ça a créé une histoire intéressante. C'est pas du tout un disque de tradition, parce qu'on serait incapable, ni elle ni moi. Mais c'est un disque qui est sur l'idée de s'approprier, dans sa propre identité, une langue maternelle, quoi. Et du coup, ça a créé une histoire intéressante. Et j'adore ce genre de projet sur le label, en fait.
Bon concert dans la Merci. Salle amplifiée, hein, on précise, les gens sont debout, c'est un choix, donc c'est intéressant ouais. aussi. Hein,
je pense que dans ce genre de salle, il faut que les gens soient debout. Quoi.
Ouais, c'est bien.
On aime bien jouer pour les gens debout, les gens vont danser s'ils veulent. C'est pas figé. Après, on joue une musique qui passe partout. On peut jouer en théâtre, en festival, on peut jouer en club.
Parce que je crois que vous allez avoir des grosses dates sur Paris, là, le Philharmonique, c'est
on
ça
On joue à Philharmonie l'année prochaine, et puis on joue aussi à la... Café de la Danse, c'est le premier concert D'accord. parisien qu'on fait le 8 décembre.
Okay. Bon. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci, merci. I dreamt the dreamer was lying. I dreamt that the dreamer was wrong. I dreamt the dreamer was dying. I woke and the dream was gone. I saw the blackest star swallowing up the ground. I saw tiring flames when it came crashing down. Stranger's eye, or was it my own? I saw the mirror break, and I was left alone. I dreamt the dream was lying. I dreamt that the dream was wrong. I dreamt the dream was dying. I woke in a dream's gone. I saw great pillars fall, opening up the skies. I saw foundations raise.
Nous venons de quitter Pierce Fassini avec cette chanson Dreamer, extraite de l'album My Wilderness, réalisé en 2011. Avant de retrouver le projet Interzone, doublement incarné par Serge Tessoguet, guitariste de Noir Désir, et par Khaled Al-Jahramani, joueur de oud d'origine syrienne. Tous deux sont parvenus à créer une œuvre intense, dont les compositions sont autant de rencontres complémentaires entre la guitare aventureuse de Sergio et les sonorités orientales de Khaled. Extrait de ce premier album d'Interzone datant de 2005, Hélice Mouvement. Place aux voix féminines avec les trois sœurs à la base du projet Folk Electro Hawa. Trois sœurs israéliennes originaires du Yémen qui chantent des airs traditionnels de leur terre originelle en y joignant les ingrédients modernes qui font décoller leur musique vers des contrées résolument funky disco groove directement inspirées par les sons et la fusion de Tel Aviv. Nous retrouverons Aiwa en interview. Ce sera dans une prochaine émission Crossroads qui sera consacrée au Festival du Bout du Monde, là où on les a rencontrés. En attendant, un avant-goût de leur album Habib Galbi, Ismer Ma'al-Gat. Retourons à la soirée du 4 novembre avec Youma, duo tunisien, invité par Amar, directeur de la cordonnerie Cité de la Musique, à faire la première partie de Pierce Fassini. Youma, c'est Sabrina, alias Chupido, la voix expressive du duo, accompagnée aux accords subtils de la guitare de Rami Zaglemi, texte chanté en dialecte tunisien. Ce passage à Roman marque une étape importante pour Youma, car il s'inscrit dans une mini-tournée hexagonale et européenne, la première pour ce duo qui jusqu'alors n'avait jamais quitté le sol tunisien. La musicalité est indissociable des textes forts, Ce duo est en pleine évolution et défend une ligne artistique dans un pays pas forcément au diapason. L'interview réalisée est intéressante à ce titre. À noter que la première partie de l'interview est menée par un journaliste valentinois, membre de la Maison du Maghreb et de la Méditerranée. Yuma, extrait de l'album Choura Smek.
وحشت أمي وفرش الدافي وخويا زين أيامي وصغر أحلامي وبويا توحشت اللين وريحة الياسمين توحشت اللين وريحة الياسمين قوي الحس ودوة جري شوارع كبرى قواس الحومة توحشت اللين والكرمة كيف تمي توحشت اللين والكرمة كيف تمي وغمزة وعشق الطفلة لولا وقت الكلمة سليد محلولة توحشت الخير وريحة الياسمين توحشت الخير وريحة الياسمين وحشت أمي وخرافات الغولة قهوة أختي وضحكة مش مخصورة توحشت سنين وريحة الياسمين توحشت سنين وريحة الياسمين ساكن بر الناس براسي بر بعيد وباقي الحسرة مواسي توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك
Sévère sur un festival étrangement de musique électronique. Un DJ avait besoin de faire un live session. Il avait besoin d'un guitariste et d'une chanteuse. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la toute première fois, Sabine et moi. Donc, une fois ce projet électro achevé, on s'est posé et on avait remarqué qu'il y avait une certaine affinité musicale. Et on s'est dit, oui, en ces temps durs pour la musique, surtout en Tunisie et dans le monde arabe, on va essayer de faire notre propre musique, d'écrire en tunisien dialectal, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de musiciens en Tunisie, malheureusement. Donc de faire office d'archive pour tous ces mots qui sont en train de disparaître chaque jour. Et voilà, donc on a eu notre première composition, puis rapidement un album, et nous voilà aujourd'hui.
En train de faire un deuxième album.
Votre source d'inspiration, on parle de l'art dialectal, vous êtes parti des chansons anciennes, où ça vous a inspiré, parce que vous êtes beaucoup folk, mais c'est votre inspiration, vous, votre couleur musicale, qu'est-ce qui vous... qui motive dans la musique.
L'inspiration, elle grandit un peu avec nous. Elle vient pas depuis 2 ans ou 5 ans. Oui, elle grandit. Donc les évolutions musicales, en ce qui me concerne, et je pense qu'on se rejoint, moi et l'ami, sur ce point-là, c'est qu'on a grandi avec à peu près les mêmes genres de musique. Donc on a apprécié d'abord la musique qui a bercé notre enfance. Ça va être du Mohamed Abdel Wahab, ça va être du Abdel Halim, Om Kalthoum, etc. Parce que nos parents écoutaient ça. Mmh. Et ensuite, quand on a eu l'opportunité de choisir la musique qu'on voulait écouter nous, bah, tout de suite, ça a été musique occidentale, donc rock, metal, wow, tout ça. Par la suite, on commence à sélectionner un peu les goûts. On va plutôt vers la sélection, plutôt vers le jazz, vers le blues, vers peut-être la folk. Donc de plus en plus, on sélectionne et plus on sélectionne, plus on est plus minimaliste, plus puriste.
Minimaliste,
voilà. Donc quand moi et Lamy, on s'était rejoints sur ce projet-là, le projet Yuma, bah, tous les deux, on avait justement, et on les a encore jusqu'à aujourd'hui, on a encore les mêmes influences, donc parfois des petites pulsions de rock, mais il y a ce côté Fairuz, mais il y a ce côté doux, mais ce côté un peu métal, mais voilà. Mais ça reste encore dans la douceur. Voilà.
Vous avez fait une date en Bretagne.
Absolument.
Est-ce que vous avez déjà une perception en termes de public, de différence avec le pays?
Tout à fait, ouais. Un contraste qu'on a remarqué.
Énorme. Mes impressions à moi, c'est que les gens, ils sont vraiment là pour écouter la musique, quoi. Quel que soit le dialecte, quelles que soient les paroles, quelle que soit la culture, ils sont là pour écouter parce que c'est des mélomanes, pour de vrai. Donc, après, en Tunisie, on fait partie quelque part d'une vague de tendances alternatives. Mmh. Donc on est un peu à la mode, quoi, en Tunisie. Mmh. Donc ceux qui viennent, c'est pas que ces personnes-là n'ont pas assez de goût. Non, ils ont assez de goût, mais j'ai l'impression que ici les gens, ils sont assez curieux de cette découverte, de la culture qu'on ramène avec nous, de ces textes, même si ça ne leur raconte pas grand-chose, mais ils sont là et ils sont très à l'écoute.
En fait, c'est un cursus de maturité musicale, justement, parce qu'en Tunisie, notre public est assez jeune, une tranche d'âge entre 16 ans et 25 ans, peut-être. Et ça nous fait plaisir parce que oui, c'est cette génération qui a soif de culture, qui a soif de musique surtout. Ici, c'est un peu différent. On fait face à un public qui est dans une certaine analyse et on a entendu certains commentaires assez plaisants. On a voyagé. C'est ce côté-là assez... J'oserais dire spirituel, qui nous plaît vraiment, et je pense qu'on est en train de réaliser qu'on réussit ce qu'on fait du moment où la musique devient un langage international.
C'est important de mentionner que Yuma est d'abord un groupe qui a tendance à collecter les mots qui ont été perdus un peu dans la langue tunisienne. Donc on essaye de restaurer un langage qui a été utilisé par nos arrière-grand-mères, etc. Tout ça, on parle de mythes, on parle de tout ce qui nous a été raconté quand on a été petit. Et là, quand on raconte ces histoires-là à des adolescents, ça leur parle.
Bien sûr.
Ça parle aussi bien aux adolescents qu'aux adultes en Tunisie, mais bon, c'est les adolescents qui bougent, qui vont aller voir les concerts, etc. Mais ici, c'est autre chose. Là, on dépasse la lecture et le sens du texte et on parle de dimension, on parle d'aura, on parle d'émotion, on parle de ce que dégage la musique. Donc au niveau de la composition, au niveau de l'arrangement, au niveau de l'émotion qui passe, etc. Ce n'est pas mieux, mais c'est autre chose, c'est différent, en fait. Voilà.
J'avais une dernière question. Je voulais juste que vous disiez quelques mots de la scène tunisienne. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est en train de bouger, que petit à petit, Internet, ça ouvre de nouvelles portes.
Oui, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître.
Exactement. Et donc, y a tous ceux qui gagnent leur vie en faisant les mariages, etc. Mais vous, c'est pas du tout ça. Il y a toute nouvelle scène qui est en train. Est-ce que vous, alors, c'est comme les autres pays du Maghreb. Hein. Il n'y a pas de circuit, c'est compliqué.
On s'improvise.
Voilà. On s'improvise. Et dites-moi un petit peu comment on se débrouille, quoi.
Absolument.
On frappe aux portes.
Voilà. La question est simple. La réponse sera un peu longue.
Moi et Rami, on avait décidé que les espaces dans lesquels on va jouer, ce ne sera que des espaces culturels. Donc on a complètement refusé toutes sortes de contrats de animateurs pour après brunch, lancement de voitures, machin. On n'est pas des animateurs, on est des artistes, on a une création en cours, on a d'autres productions en cours. Et on n'est pas là pour faire de l'animation, quoi. Mmh. Donc, on a refusé complètement ce type de marché. On ne joue pas dans les bars. On joue que dans les espaces culturels. Et ce, que en Tunisie. Donc, là, ici, parce que je sais que dans ce type de bar, par exemple, les gens, ils viennent, ils payent leur place. Ouais. Ils payent le droit de spectacle. Ils sont là. C'est des mélomanes. Ils écoutent. Donc, l'échange y est, quoi. En Tunisie, au bout de la troisième bière, ben, on rigole. Donc, voilà. Donc, moi et Rami, on avait décidé depuis le départ que c'était ça, notre objectif. Déjà, raviver les espaces culturels.
Et voilà. Vu qu'on a remarqué qu'il y a un certain nombre de jeunes qui nous suivent, qui sont là, ça leur permet aussi de découvrir certains espaces, de découvrir des théâtres, des salles de cinéma. Et s'ils peuvent associer ça à notre musique, aller plus voir des pièces ou des films, ça serait vraiment magnifique. Ce n'est pas un refoulement des scènes, entre guillemets, black ou alternative, non. La majorité des musiciens tunisiens gagnent leur vie via ce genre de circuit qui est pour nous, et je pèse bien le mot, primitif. Très primitif.
On s'improvise.
On est en 2016, ça fait 5 bonnes années qu'on a révolution. On a un peu honte, et c'est pour ça qu'on s'acharne sur ce travail de musique et d'art, de ne pas avoir une industrie musicale en Tunisie. Aucun artiste, et je ne parle pas uniquement de musique, mais aucun artiste n'est vraiment considéré comme artiste. Sabrina était dans le journalisme, j'étais dans l'audiovisuel, et là, ça fait un bon moment, ça fait 8 ou 9 mois qu'on fait de la musique. Eh bien, socialement, c'est pas quand on nous demande de qu'est-ce que vous faites comme travail, on dit on est musicien, auteur, compositeur.
Sinon, à part ça.
C'est un peu.
Un peu.
Rageant. Parce que les talents, et c'est ce qui est vraiment dommage, ne manquent pas en Tunisie. Il y a de très bons musiciens, de très bons chanteurs.
Mais on a vu l'évolution ces dernières années. On est sorti de tout ça.
Il leur faut, en fait. Il leur faut une sorte de modèle, une sorte de rage, en fait. Je vais y arriver. Moi, je vais procéder de cette manière-là en tant qu'indépendant et je vais y arriver. Et là, en fait, j'aime pas le mot donner l'exemple parce qu'on n'est pas un exemple, mais c'est un peu l'exemple qu'on a suivi, en fait, de prendre ce chemin-là et d'essayer de réussir vraiment avec les peu de moyens qu'on nous a donnés. Nous, on frappe aux portes, on dit on aimerait bien avoir une date chez vous.
On a un album,
et on fait des négociations et on fait tout ça seul, sans corps de production, sans rien du tout. C'est ça qu'il faut faire, hein.
Ooh.
Juste sur le fait qu'en France, il y a le statut d'intermittent du spectacle.
Exactement. Hein, c'est... En Tunisie aussi, mais ça sert
c'est vrai, en Tunisie
rien.
Aussi
ah, oui. Si, mais c'est
ça
juste
sert à... absolument rien. Ça, on paye, on paye, on paye, on paye, mais on...
Et on vient de découvrir ça il n'y a pas très longtemps. On n'a pas tout le temps été musicien professionnel. Mm-hmm. Ça fait uniquement une année qu'on, mm-hmm. qu'on est dans... Et quand on a voulu avoir ces fameux droits d'auteur, c'est un droit, mm-hmm. le moyen... C'était juste impossible à faire.
Ouais.
Il fallait débourser une somme énorme d'argent pour rien du tout. Et ça fait là une bonne dizaine de jours qu'on est en France, qu'on est en Bretagne. Et on a discuté avec des musiciens, avec des managers et métiers qui n'existent pas. Et oui, on vient de découvrir que voilà, il y a ce statut d'intermittent. Mmh. Si on fait plus que 64 mmh. concerts par année, on a le droit à un certain statut.
Des indemnités chômage.
Voilà, absolument. Qui est carrément fantaisiste.
Qu'en allant enregistrer son propre album, voilà. On est payé de chaque jour qu'on enregistre.
Je veux dire, il y a quelqu'un qui s'adressait en Tunisie pour discuter de ce genre de choses ou pas ?
On les connaît, les lois. Ça sert absolument à rien d'être dans ces lois-là, en sachant que les décideurs, aujourd'hui, de la musique, des tendances musicales en Tunisie, sont un peu archaïques, donc ça sert à rien, quoi. Tu vas leur dire, écoute, moi, je fais de la folk tunisienne, n'importe quoi. Non,
tu prends l'exemple,
ça sert absolument à rien, quoi. C'est des conservateurs du patrimoine traditionnaliste tunisien. Alors que personne ne va te piquer ce patrimoine-là. Mmh. Il est là, ce patrimoine. Il est ancré dans nous. Il est enraciné. Exactement. Mais maintenant, on est en train de faire de la recherche. On est en train d'innover, etc. Encouragez-nous, quoi. Mmh. Encouragez-nous.
Je voulais juste revenir... je discute avec Amar qui m'a raconté comment il vous a découvert en Tunisie. C'était dans un festival. C'est bien ça, un festival qui regroupe beaucoup d'...
Oui, c'est un concours, en fait. Plus exactement.
Dites-moi à quoi ça ressemble.
Ouais. Oui, c'est les journées musicales de Carthage. Ah. C'était en avril dernier. Et en fait, Bertrand, le... le gars qui nous a ramené justement pour faire cette tournée et Amar, ça veut dire Amar, c'est pas Omar, Amar. Oui, donc Amar était là aussi, et donc ça a été dans le cadre d'un speed meeting. Donc c'est un meeting entre les professionnels venus de l'étranger, donc et journalistes et managers.
Donc pas que la France.
Il y avait plein de pays européens. Il y avait des Européens, il y avait des Anglais, il y avait des Américains, etc. Donc des professionnels de partout. Bon, ils n'étaient pas très très nombreux, ils étaient 9 ou 10. Et tous les artistes qui venaient avec leurs projets, leurs enregistrements, etc. Et qui les sollicitaient pour essayer de caler un contrat ou essayer de trouver une date, etc. Et c'est là qu'ils nous ont...
Et vous avez d'autres opportunités au-delà de la France, justement, là au... Comment vous...
On a joué
en Hambourg il y a un mois, c'était magnifique aussi. On a joué en Allemagne. On a été sollicité par la Goethe Institute. Du coup,
c'est le centre culturel allemand en Tunisie.
On était côte à côte avec des musiciens libanais et palestiniens. Ça a été également une découverte. Ça a été très très enrichissant.
Vous êtes en préparation d'un album. Donc il se fabrique. Où, par exemple, à Tunis, comment que ça se passe concrètement? Où est-ce qu'il y a des studios valables?
Eh bien, pour le premier album, c'était un travail purement artisanal. On vient de, comme on vient de vous le dire, il n'y a pas de production musicale en Tunisie. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de studio où ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est pas dans nos moyens.
Donc, c'est forcément à la maison.
Heureusement, pas très à la maison, mais heureusement qu'il y a cette jeunesse qui est un peu dans une sorte de collectif, des gens dans l'audiovisuel, dans le cinéma, dans le son, dans le métier, dans l'art, et on s'entraide. Donc notre premier album a été enregistré gratuitement chez un ami. Et il a pris soin de faire le mixage et tout ce qui suit, et ça a fait un carton. On en est heureux. Mais on est également conscient que ça doit changer. Que ça doit changer. Qu'on a besoin d'avoir.
De structurer un peu tout
voilà. Oui. D'avoir une structure, d'avoir.
D'évoluer, quoi, sur le plan musical. Déjà, on a pas mal évolué au niveau des positions, des nouvelles compositions. Donc là, ça fait déjà presque. Ça fait 9 mois qu'on a produit notre premier album. Et là, on en est au deuxième et on remarque déjà certains changements sur le style. Donc. On penche plus vers de la folk un peu plus rythmée, vers du rock, vers plusieurs influences qui reviennent comme ça. Et notre prochain album qui se nommera Rbarnjoum, c'est-à-dire poussière d'étoiles. Et c'est un album qu'on va travailler en collaboration avec des Bretons. Parce qu'il va être enregistré en Bretagne, à Langonnette.
On a rencontré dans une résidence artistique à la Grande Boutique à Langonnette deux fabuleux musiciens bretons. On a également découvert la musique en Bretagne. Et on était surpris d'avoir tellement de points communs, tellement de carrefours. Des gammes n'arrêtaient pas de se croiser. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique.
Et sinon, on est très branché, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc, on est partout. On est sur YouTube, on a une chaîne YouTube, Yuma The Duo. On est sur Facebook.
Un lien à nous donner, quelque chose.
On est partout sur Google Search. On est Yuma The Duo. Donc, on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube, on est sur Instagram, on est sur Twitter, et on est sur Blogspot pour les paroles et les traductions. Parce qu'on a prévu les traductions en français. Voilà. Voilà. Donc, allez nous voir, etc. On continue à être très en contact avec notre public parce que, pour nous, c'est quelque chose qui nous a permis d'avoir accès à ce...
On existe à travers ces gens.
Voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à eux, quoi. Donc, vraiment, on continue à garder ce contact. C'est nous qui tenons ces pages-là. C'est nous qui répondons à ces messages et à leurs demandes.
chanter.
Voilà.
Super. Ben, merci beaucoup.
Bien. Merci à vous.
Merci.
Yalatna, yalatna, latpahla tair lehama, ruhya hamam latsate, bidhakana dalatna, yalatna, yalatna, latpahla tair lehama. روحي يا حمام لا تصدق بضحك عنا دالتنا تيشتشي وحد تيشتشي والخوخ تحت المشمشي كل ما هب الهوى لا طفلنا دم شمشي
Nous écoutions à l'instant Bachar Mar Khalife, titre choisi en illustration de son album Ya Balad, Ya Latram Nada. Bachar, chanteur pianiste libanais, exilé à Paris, nous propose une musique traditionnelle arabe profondément traversée par le jazz, l'électro et des fulgurances contemporaines dont lui seul a le secret. Précisons également que son frère Rami est un des deux membres d'Ofgang, autre projet complètement barré. Bachar est, on l'aura compris, surprenant, voire déstabilisant, tant en live qu'en interview. Interview réalisée au bout du monde que l'on retrouvera dans les émissions spéciales.
Ainsi s'achève ce premier volet consacré aux musiques métissées, en notant de dialogues artistiques entre Orient et Occident, plus précisément entre Europe, Moyen-Orient et Maghreb. Nous refermons cette émission en beauté avec Éric Truffaz, qui sera en concert début mars prochain en Ardèche, à Nonet-Vivier, et le 5 avril à Romans. Nous le retrouverons ici en compagnie de Mounir Troudi dans un titre qui s'intitule Flamingos, enregistré live à Jérusalem en 2003. Donc, remerciements pour Gaël à la production de cette émission, ainsi que Sylvie pour le montage des interviews. Et un grand merci également à la Cité de la Musique et aux musiciens que nous avons eu la chance de rencontrer le 4 novembre dernier. À très bientôt. Salut.
شئت وإن شئت يا شاب.